Vivre FM, podcast. La vie des associations.
De 10h à 11h.
Benjamin Moreau.
Bonjour à tous, c'est Benjamin Moreau sur Vivre FM et ravi de rester avec vous jusqu'à midi. Tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de rire. Il faut vraiment que je me calme tout de suite parce que c'est important. Il est important que vous sachiez que tout à l'heure, et c'est sérieux, nous serons ensemble de 11h à midi. Les chroniqueurs nous y attendent déjà et on parlera d'amour, on parlera de télé, on parlera de radio, enfin bref. De quoi ne parlera-t-on pas ? Tout de suite, je peux vous dire de quoi on parlera pas, mais surtout, je peux tout à fait vous dire de quoi on va parler. Grâce au CERTAM, le Centre d'évaluation et de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants, on va parler de toutes ces questions, justement, qui concernent les nouvelles technologies. C'est ainsi que si vous voulez poser des questions, je sais pas, sur les nouveaux téléphones, sur les lecteurs d'écran, si vous êtes aveugle et si vous êtes malvoyant, n'hésitez pas. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont des vôtres. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, 01 56 80 88 40 20 01 56 88 40 20. Excellente matinée en notre compagnie.
10h 11h, la vie des associations, Benjamin Moreau.
C'est le jour de notre rendez-vous mensuel avec le CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche sur les technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Ils sont venus à deux pour répondre à tout un tas de questions qui leur ont été posées ou qui vont peut-être leur être posées sur l'antenne de Vivre FM. Pourquoi pas 01 56 88 40 20. Les deux sont Jean-Pierre Carpanini et Fernando Pinto da Silva que je salue. Bonjour messieurs.
Bonjour Benjamin. Bonjour,
merci d'être des nôtres. Alors tout de suite, on va démarrer avec une transition en rapport avec l'émission du mois dernier où on a parlé des scanbox.
Oui Benjamin, c'était une question qui nous a été posée puisque Pascal était venu présenter différentes applications qu'on pouvait utiliser pour numériser des documents à partir d'un téléphone mobile, et on a évoqué lors de cette émission donc les scanbox en fait, qui sont donc des, comment on va dire, comme des chemises où on range les documents mais qu'on peut déplier, et une fois déplié ça fait comme une espèce de boîte,
de boîte, hein, une
sorte de boîte en carton, voilà,
oui.
Avec donc un, on va dire une petite lucarne sur le dessus pour pouvoir positionner la partie appareil photo du téléphone, du smartphone, et on place évidemment le document dans la boîte.
Dans la boîte, en dessous.
Ce qui permet en fait pour une personne déficiente visuelle, par exemple, d'ajuster, je dirais, le visuel pour que le document soit correctement scanné. Et on avait donc indiqué donc que ces scanbox étaient trouvables sur Internet, etc. Et c'est vrai qu'on a eu quelques demandes de précision par la suite. Donc on a essayé avec Jean-Pierre de voir un petit peu comment faciliter la recherche de ce type d'aide technique. La première des choses, évidemment, pour ceux d'entre nous qui sommes aguerris, on va dire, aux nouvelles technologies et qui peuvent se permettre de passer un peu de temps, c'est de chercher Scanbox tout simplement dans Google. On trouve beaucoup de choses avec ça, même des références à des films. Donc là, évidemment, c'est pas ce qu'il faut.
C'est ça. Faut pas se tromper.
C'est pas toujours évident à localiser. Certains sites marchands les vendent notamment aux États-Unis, donc il y a des frais de port. Mais on a trouvé en France également des structures qui les vendent, notamment la société Cessia, qui propose donc la StandScan Pro. Voilà, qu'on peut du coup localiser directement chez eux.
On risque pas de se tromper, je veux dire, à partir du moment où on voit que c'est une scanbox, de toute façon elle répondra à nos attentes. Il y a pas il y a pas des produits qui sont plus ou moins bien faits, il y a pas des marques sur lesquelles il convient plutôt de jeter son dévolu plutôt que, et puis d'éviter d'autres, enfin.
Ce sont les mêmes concepts, hein. Ça reste ça. Vraiment la même chose. C'est toujours cette idée de j'ai une pochette carton que je vais déplier, c'est avec des aimants. Les aimants vont nous permettre de monter cette boîte assez rapidement. Non, sincèrement, ça reste du même concept. Là, le gros avantage de cibler notamment la StandScan Pro, c'est que du coup, il y a un distributeur qui, en France, la propose.
C'est ça.
Mais encore une fois, vous allez pouvoir trouver d'autres alternatives, hein. C'est pas la question, c'est plus de dire, bon, voilà ce qui est facile à trouver sur le marché. Après, encore une fois, on peut tout à fait en trouver ailleurs. On peut faire des recherches sur des sites américains dédiés, par exemple.
C'est vrai, mais ce qui est bien, justement, pour une société française, c'est pas tant l'histoire du Made in France, et pourquoi pas, mais c'est surtout aussi que toutes les indications vont être en français. Hein, parce que, effectivement, si on va sur un site américain, bah forcément, tout sera marqué en anglais. C'est peut-être moins facile de se dépêtrer de ces choses-là à ce moment-là.
C'est souvent ce qu'on nous a dit d'ailleurs après l'émission. C'était pas un reproche, je pense, de la part de nos auditeurs, mais c'était une demande de précision, en ce sens où c'est vrai qu'en tapant en scanbox dans Google, on a ce qu'on appelle beaucoup de bruit. Donc lorsqu'on va faire la recherche, on va avoir plein de choses qui vont sortir et vraiment pas ce qu'on veut. C'est pour ça que du coup on dit voilà, sachez qu'il y a cette référence, donc la StandScan Pro qui existe, elle est trouvable sur internet, vous pouvez l'acheter sur des sites marchands par exemple, mais en l'occurrence cette référence là est également commercialisée en France, donc comme je viens de l'indiquer tout à l'heure, par un distributeur spécialisé par exemple.
Je ne suis pas une question bête près, est-ce que finalement la scanbox a l'air comme ça un objet tout à fait anodin, pratique certes, mais on a l'impression qu'on pourrait se la fabriquer soi-même. Est-ce que quelqu'un qui est bricoleur, il peut se lancer dans la fabrication d'une scanbox?
Alors, on a vu effectivement lors d'un salon aux États-Unis qu'il était possible, si on est un petit peu bricoleur, de concevoir sa propre scanbox. Ça demande du temps.
C'est ça.
On n'aura pas certaines. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué si on veut rajouter de l'éclairage, parce qu'on celle qui est vendue, la StandScan Pro, dispose aussi d'un petit éclairage par diode, ce qui peut là aussi faciliter la capture des documents en environnement sombre. Donc, si on doit vraiment faire l'équivalent par soi-même, ça prend du temps. Est-ce que ça vaut le coup
pour vaut la peine? Voilà, c'est
pour
ça.
Pour un produit qui coûte environ 30 euros,
je suis pas
certain.
Je suis pas certain du voilà, mais si vraiment vous êtes un excellent manuel et si vous avez face à vous des personnes qui peuvent vous aider, pourquoi pas tenter l'aventure. Mais dans l'absolu, 30 euros, effectivement, c'est plus facile, d'autant qu'on sait qu'il y a des sociétés en France, notamment la société Cessia, et qui commercialise la scanbox. D'accord ? Bon, ben ça, c'est une première question, et mine de rien, je sais pas, d'ores et déjà, vous avez une deuxième question à laquelle vous allez répondre après une pause musicale.
On en a beaucoup des questions.
Alors,
Benjamin,
par exemple.
On a eu des questions sur je veux un nouveau téléphone mobile, mais j'ai pas forcément envie de passer au tactile, par exemple.
Eh ben, écoutez, pourquoi pas, hein. On envisage ça, et puis, sur votre téléphone mobile tactile ou pas, sur votre téléphone fixe, vous pouvez composer notre numéro et poser vos questions sur Vivre FM aujourd'hui. 01 56 80 8 40 20.
Vous écoutez La Vie des Associations, Benjamin Moreau.
Aujourd'hui, c'est le CERTAM qui est avec nous, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Kerpanini sont avec nous pour un certain nombre de questions qui nous concernent, hein, nous les aveugles et les malvoyants, qui concernent les nouvelles technologies, justement. Comment se débrouiller avec ces nouvelles technologies et comment choisir un nouveau téléphone quand on n'aime pas le tactile et qu'on est plutôt intéressé par les téléphones à touche? Est-ce qu'il y en a encore, messieurs, des téléphones à touche?
Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous est souvent posé, c'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, bon, oui, moi, il faut que je change de téléphone parce que mon téléphone est en train de mourir et j'ai pas du tout envie, soit par choix, tout simplement, soit effectivement parce que ça fait un peu peur de passer au tactile. Qu'est-ce que je peux trouver aujourd'hui?
Alors, à ça, ça existe encore.
Il y a plusieurs réponses. Oui, il y a des choses qui existent. Par contre, c'est vrai qu'on va être de plus en plus dans des matériels spécialisés. En ce sens où, par exemple, pour des personnes qui vont chercher des téléphones vocalisés, on va avoir une solution comme le Smart Vision, qui est une solution qui a été développée par Capsys, les fabricants de GPS. Et ce téléphone possède un clavier mécanique à touche avec un certain nombre de fonctionnalités. Il est décliné sous deux modèles, une version light et une version avec toutes les fonctionnalités disponibles, notamment un GPS et un OCR, donc un module de numérisation de documents, justement. Mm-hmm. Voilà, maintenant, ce sont des téléphones qui sont, pour la version light, sauf erreur de ma part, aux alentours de 400 euros, et pour la version, la version toute fonctionnalité, aux alentours de 600.
C'est light, sauf pour le porte-monnaie quand même, hein.
Après, oui. Ça reste, encore une fois, des téléphones vraiment dédiés aux déficients visuels. Donc, on est toujours
c'est
dans
ça, c'est ça qui les rend d'ailleurs
dualité,
plus chers.
C'est-à-dire qu'on voudrait du téléphone standard. et qui soit accessible. Et il faut quand même voir le marché dans sa globalité. Aujourd'hui, le téléphone standard, celui que tout le monde veut, je ne parle pas des déficients visuels, mais je parle de l'ensemble du marché, c'est du téléphone tactile. Donc, c'est sûr que du coup, quand on reveut du téléphone à touche et qu'on veut en plus que ce téléphone à touche parle, du coup, là, on bascule vraiment dans du matériel spécialisé dédié.
Ça pose d'autant un problème que certains opérateurs qui, jusqu'à présent, payaient, par exemple, des choses comme MobileSpeak, par exemple, certains opérateurs se sont, ont terminé de payer ça.
Et dans le même temps, ils envisagent, eux, et vous m'offrez là une excellente transition, merci Benjamin, envisagent d'autres solutions, notamment donc pour parler d'une autre solution. Alors, en fait, qui repose sur une solution tactile, mais combinée, on va dire, à une espèce de coque en silicone qui va permettre aux gens de placer leurs doigts à des endroits où ça va déclencher des événements. Et là, on parle notamment de la solution Tellurion. Voilà. Qui est donc un téléphone, à la base, soit un téléphone Samsung, soit un téléphone Nexus et prochainement un téléphone Sony, et qui permet de placer ses doigts à des endroits où on va pouvoir déclencher des appels, composer des messages, etc. Donc ça va donner le sentiment à l'utilisateur, finalement, de ne pas utiliser un téléphone tactile, alors qu'en réalité, c'est ce qu'il fait.
C'est un téléphone tactile aménagé, on va dire.
Tout à fait.
Mais on aura l'occasion de reparler de tout ça. Certainement, si ce n'est aujourd'hui, en tous les cas, on en reparlera, c'est sûr. Mais on a un auditeur qui nous attend au téléphone, c'est François.
Oui, bonjour.
Bonjour François.
Bonjour Benjamin et bonjour à l'équipe du CERTAM.
Bonjour François.
Et
bonjour.
Je voulais vous remercier parce que je vous ai adressé un courrier par l'intermédiaire d'un ami aussi. Et on a eu un petit problème, vous savez, avec les touches des décodeurs pour recevoir l'audio description. Sur les deux qui existent, celui de la VH, enfin qui n'a plus cours. Et puis sur le décodeur Cessia, on a eu des problèmes avec celui-là parce que on arrivait à recevoir les 19 chaînes, mais de la 20 à la 26, les nouvelles chaînes, il y avait l'image mais il n'y avait pas le son.
Oui. C'est ennuyeux pour nous. À la limite, le contraire, on peut faire avec. Mais effectivement, quand il n'y a pas le son, là, c'est compliqué.
Donc là, je l'ai reçu, je vais le réessayer. Mais alors, je me demandais si, dans un avenir plus ou moins lointain, est-ce qu'il y aurait un système sur le téléviseur lui-même intégré pour qu'on n'ait plus tous ces tracas d'avoir un périphérique, si je puis m'exprimer.
Parce que si on a le décodeur qui déconne, effectivement, ça ne va pas.
Voilà.
Si ça devient un déconneur, ça ne va pas.
C'est ça.
Fernando,
Jean-Pierre. Benjamin, arrêtez de déconner 5 minutes. Pour être très clair, oui, il y a des choses qui arrivent et qui sont déjà arrivées même. On a eu l'occasion sur le site du CERTAM d'expertiser, il y a maintenant 2 ans, une nouvelle gamme de télévision chez Panasonic qui commençait à répondre à ces besoins, qui intégrait notamment de la vocalisation. Donc si vous allez faire une recherche sur www.certam-avh.com et que vous recherchez dans Panasonic, vous trouverez les références de l'expertise qu'on avait faite à l'époque et qui reste encore valable puisque certains des téléviseurs mentionnés continuent à être commercialisés. D'autre part, nous étions, Jean-Pierre et moi, en novembre dernier, du 20 au 22 à Madrid, et pour un salon organisé par nos amis de la ONCE, qui est un peu à l'Espagne, mais en beaucoup plus gros, ce que l'AVH est en France. Et on a rencontré les gens de Samsung qui nous ont annoncé l'arrivée très prochaine d'une télévision vocalisée là aussi. On n'a pas encore eu l'occasion de la tester. Cela étant, on a croisé dans les allées de ce salon les gens d'Handicap Zéro qui nous ont dit la recevoir prochainement et faire des tests dessus. Donc je pense qu'il faut du coup là aussi rester entre guillemets en veille pour faire un mauvais jeu de mots comme on les aime. Et du coup voilà, rester auprès de l'information. Il devrait y avoir des choses intéressante chez Samsung.
Donc François, bientôt vous allez avoir un décodeur obsolète, quoi.
Oui, mais enfin pour l'instant, il va me servir encore puisque j'ai entendu dire que le Panasonic n'était pas très au point.
C'était les débuts, effectivement, il y a 2 ans. Il y a des choses notamment qui nous avaient étonnés, qu'on avait pointé dans notre fiche, à savoir le fait, par exemple, que pour déclencher l'audio description, il fallait faire un certain nombre de manipulations qui elles-mêmes n'étaient pas vocalisées. Ouais. Ce qu'on avait pointé là comme étant une forme d'incohérence, en quelque sorte. Donc, effectivement, c'était les débuts. Eux ont quand même continué à distribuer cette solution. Maintenant, on espère beaucoup de Samsung.
Absolument. Là, on va pas avoir beaucoup le temps, on va falloir faire une pause musicale, mais j'ai entendu parler d'un appareil, juste par rapport à l'audio description. Il faudrait qu'on en parle en antenne et pourquoi pas qu'on en parle le plus tard, en tous les cas. Merci François, en tous les cas, de votre question. Puis vous nous donnez quand même des nouvelles de votre décodeur pour savoir si ça fonctionne quand même.
Mais on espère pour Noël que là, il y en a deux pour l'instant, il y en a bien sur deux.
Il y en a bien sur deux qui va marcher.
Celui de la VH qui ne.
Bon, on n'en parle plus de celui-là, on le jette.
Ah non, il fonctionne.
Bon, alors tout va bien.
Il y en a un sur deux pour l'instant.
Parfait, merci François et bon Noël.
Au revoir, merci.
Au revoir. Au revoir. Une pause musicale et on revient tout de suite. On continue à répondre à vos questions. N'hésitez pas à les poser, même au numéro de téléphone de Vivre FM.
La vie des associations, Benjamin Moreau.
Le CERTAM est avec nous. Le CERTAM, c'est le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. On parle haute technologie, nouvelle technologie pour les aveugles et malvoyants à base de questions que vous posez, que vous avez déjà posées, même à Fernando Pinto da Silva et à Jean-Pierre Carpanini qui sont avec nous pour y répondre. Fernando, Jean-Pierre, on pourrait rester dans la téléphonie. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, de toute façon, notamment à propos des mises à jour iOS. Alors iOS, c'est le système d'exploitation, notamment pour les iPhones.
Absolument, Benjamin. C'est vrai que c'est une question très récurrente depuis que iOS, dans sa version 8, est sortie courant septembre. C'est est-ce qu'on a intérêt à faire cette mise à jour? Qu'est-ce que ça va nous apporter de plus? Quelles sont les fonctionnalités qu'on peut en attendre?
Moi qui ne suis pas féru en nouvelles technologies, à chaque fois que je vois mise à jour, j'ai toujours peur que ce soit un peu plus de marketing. J'allais presque dire de branlette quand j'en parle comme ça tout seul. Je me dis, ça peut peut-être attendre. Je peux peut-être attendre 2 à 3 mises à jour plus tard pour avoir des choses vraiment nouvelles.
Et à contrario, il y a des gens qui, dès qu'ils voient mise à jour, cliquent dessus et font la mise à jour
systématiquement,
et après sont parfois déçus. C'est pour ça qu'on se proposait de répondre à cette question à l'antenne, notamment parce que il y a peut-être différents points de vue selon qu'on soit non ou malvoyant. On a peut-être là des choses un peu différentes. Mm-hmm. Pour la non-voyance, je vais parler en particulier des utilisateurs du braille notamment. Il y a des évolutions en ce sens où l'application iBooks, dont on sera peut-être amené à parler un peu plus tard, qui permet de lire des livres numériques, offre une nouvelle fonctionnalité. C'est le fait de pouvoir faire en sorte que lorsque vous lisez sur votre plage braille, quand vous arrivez en bas de page, le système détecte que vous êtes en bas de page et si vous faites encore un appui pour aller à la ligne suivante, il tourne la page pour vous.
Ah d'accord.
Ça paraît tout bête comme ça, mais du coup ça rend la lecture beaucoup plus fluide, et ça c'est une vraie grosse amélioration d'iOS 8 et de l'application iBooks pour les braillistes. En revanche, une grosse régression pour les braillistes encore, lorsqu'on utilise donc une plage braille connectée et qu'on lit ses mails par exemple, si la personne qui vous a envoyé le mail l'a envoyé à partir d'un logiciel de messagerie mal configuré à son insu, c'est-à-dire qu'elle-même ne le sait pas et qui encode le texte du message comme si c'était de l'anglais, pour une personne voyante ça ne pose aucun problème. Pour les braillistes, jusqu'à la version iOS 7, ça n'en pose pas non plus. En revanche, depuis iOS 8, si ces mêmes braillistes utilisent du braille abrégé, eh bien ça affiche tout votre texte en braille abrégé anglais.
Ah, sympa!
Ce qui rend la lecture assez difficile.
Beaucoup moins compréhensible.
Voilà.
Enfin, à moins de connaître l'abrégé anglais.
Par la force des choses, j'aime mieux vous dire que pour être un usager quotidien d'iOS 8 et des mails, vous commencez par le connaître, l'abrégé braille anglais appliqué au français.
D'accord.
Ce qui est un peu étonnant. Voilà pour
petite plusieurs... question subsidiaire, justement, quand on veut faire une mise à jour, est-ce que ça serait pas bien qu'on nous donne les améliorations, en tout cas les modifications? Ça se fait, ça? Ou simplement on est forcé de cliquer et mise à jour, et puis là on voit dans quel caca on est, ou au contraire, on voit qu'il y a un vrai progrès?
Il y a toujours une note qui accompagne les mises à jour. Souvent, elle dit ce qui est en plus. En revanche, elle dit rarement ce qui est en moins, puisqu'évidemment, eux-mêmes s'en sont pas aperçus. Le bug dont je viens de vous parler, par exemple, sur le braille abrégé anglais appliqué à du mail écrit en français, c'est un bug qu'on a remonté à Apple et on sait qu'ils sont dessus, mais c'est une vraie difficulté. De la même façon, sur iOS, on peut peut-être parler aussi un peu de malvoyance. Je pense que Jean-Pierre a des choses à nous raconter.
Oui, il avait des choses à dire.
Tout à fait. Alors là, la version 8 d'iOS a apporté pas mal d'améliorations, notamment à l'application Zoom, donc cette fonctionnalité qui se trouve dans les accessibilités du système et qui permet d'agrandir le contenu de l'écran de l'iPhone ou de l'iPad. On avait jusqu'à présent un seul type d'agrandissement qui était un agrandissement plein écran. Donc la totalité de l'information était agrandie. On a maintenant, depuis la version 8, un agrandissement en mode fenêtre. Donc en mode fenêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une partie de l'écran reste en taille normale et on va agrandir simplement dans une fenêtre une zone de l'écran. Bien évidemment, cette fenêtre est redimensionnable, donc on peut la définir en fonction de ses besoins et de la zone que l'on désire agrandir. Donc ça, c'est un vrai plus. C'est un vrai plus. Ah ouais. C'est une fonction qui apparaît pour la première fois sur des plateformes mobiles, parce que c'est le mode agrandissement par fenêtrage, on l'a couramment sur des logiciels d'agrandissement sur PC, sur ordinateur, mais pas sur mobile. C'est vraiment une première. Autre nouveauté de la fonctionnalité Zoom, on peut faire apparaître un menu. Donc avant, on ne pouvait contrôler en fait la fonctionnalité Zoom que par la gestuelle. Donc c'est toujours valable, mais on a cette fois-ci la possibilité de faire apparaître un menu où on va pouvoir, par exemple, modifier les couleurs d'affichage. Donc on va pouvoir inverser les couleurs d'affichage, avoir un affichage en niveau de gris ou en niveau de gris inversé. Ces fonctionnalités d'affichage, de couleurs d'affichage, on était obligé auparavant de rentrer dans les réglages d'iOS et de modifier les options d'accessibilité. De la même façon, il y a ce qu'on appelle un contrôleur. Donc un contrôleur, c'est une espèce de joystick qui va s'afficher à l'écran et qui va permettre de diriger en fait la fenêtre d'agrandissement. Auparavant, cette fonctionnalité s'effectuait uniquement par gestuelle. Donc là, on a la gestuelle plus le joystick. Donc là, le joystick, c'est très pratique parce que sur une zone très très limitée, avec le doigt, on va pouvoir déplacer la fenêtre d'agrandissement.
Donc pour la basse vision, la mise à jour iOS 8, c'est bien. Pour les braillistes, faut voir. C'est le cas de le dire. Et puis pour les autres, pourquoi pas? Après tout, c'est toujours bien d'avoir l'application du moment, quoi. Non, on est d'accord?
Absolument.
Très bien. Fernando Pinto da Silva, Jean-Pierre Kerpanini sont là pour répondre à vos questions qui concernent les technologies pour les aveugles et les malvoyants. C'est le CERTAM qui est avec nous jusqu'à 11h.
10h, 11h, la vie des associations, Benjamin Moreau.
Le CERTAM est avec nous, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants, représenté par Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Kerpanini. On parle évidemment des nouvelles technologies à base de questions que vous ne manquez pas de poser, soit sur Vivre FM, soit au CERTAM directement. Et on a parlé de téléphonie tout à l'heure, là on va parler plutôt lecture.
Oui, alors le rapport est étroit d'ailleurs maintenant, puisqu'on lit de plus en plus.
On lit avec son téléphone,
de plus en plus, oui. Et pas plus tard qu'à la fin de la semaine dernière, on m'a posé la question suivante, mais comment un aveugle ça peut lire du format EPUB? Alors le format EPUB, rappelons rapidement de quoi il s'agit, c'est un format de lecture électronique qui est distribué par pas mal de plateformes de téléchargement. Et donc effectivement, une personne aveugle ou malvoyante peut lire de l'EPUB et on se propose de répondre rapidement à cette question. Quand on est non-voyant, plusieurs possibilités d'accéder à cet EPUB, soit avec une synthèse vocale, soit avec une plage braille connectée. La plateforme qui est aujourd'hui certainement la plus plébiscitée pour les déficients visuels, une fois de plus, c'est iOS. Donc tout ce qui est iPhone et dans une moindre mesure iPad et iPad mini. Et l'application iBooks, qui est une application faite par Apple, permet par exemple d'acheter des formats EPUB à travers l'application elle-même et de les lire directement. On peut également acheter ces EPUB ailleurs, notamment sur des plateformes de distribution type ipagine.fr par exemple, ce qui nous permet rapidement de savoir si le format qu'on s'apprête à acheter a ce qu'on appelle une DRM, c'est-à-dire s'il est crypté, s'il est protégé ou pas. Et s'il n'est pas protégé, l'avantage de l'acheter sur une plateforme et de le charger ensuite sur le logiciel iBooks, c'est qu'on peut aussi le charger sur d'autres plateformes, si on en a plusieurs, sans avoir ce problème de verrou numérique.
Parce que voilà, quand il est protégé, ça veut dire qu'effectivement, on peut pas le copier, on peut pas donc le transférer d'une plateforme à une autre.
Absolument. Et c'est pour ça que je le précise, pour que ça soit bien clair. D'autres solutions sont également utilisées pour lire sous iOS, notamment la solution Voice Dream, qui est un logiciel payant qui coûte une dizaine d'euros, qui va permettre lui aussi de charger un format EPUB avec des voix de synthèse qui n'existent pas dans le système iOS, puisqu'on va pouvoir les acheter, notamment des voix d'acapella, des voix de chez Ivona, qui vont être des voix qui peuvent apporter un confort à ceux qui lisent en voix de synthèse. Pour les braillistes, la solution iBooks, par contre, reste la solution à privilégier, puisqu'elle elle permet un affichage braille de qualité dans les différents codes braille, y compris donc en braille intégral, braille abrégé.
Et ça, c'est pas mal. C'est plutôt intéressant. Côté basse vision, il y a des choses qui se font, évidemment, j'imagine. Le format, enfin, vous êtes les personnes qui souffrent de basse vision sont concernées par les difficultés, justement, de ces différents formats?
Oui, tout à fait. Donc, le format EPUB, EPUB 2, est également utilisé par des personnes malvoyantes. La particularité de la population malvoyante, c'est qu'elle est très, très diverse. Donc, il faut pouvoir modifier l'affichage en fonction des besoins de l'utilisateur. Donc, d'où l'utilisation d'une application, qu'elle soit sous Android ou sous iOS, qui offre le plus de flexibilité possible. Donc, sous iOS, on peut utiliser bien évidemment iBooks. On peut l'utiliser avec la fonctionnalité Zoom ou avec VoiceOver. Donc, on peut avoir une utilisation conjointe vocale et agrandissement. iBooks apporte des possibilités de modification de police de caractère, de taille de police, etc. Donc, ça peut suffire pour un grand nombre de personnes. Si on veut vraiment des fonctionnalités très, très étendues, là aussi, VoiceDream dispose davantage de fonctions comme la possibilité de mettre en surbrillance le texte qui est lu par la synthèse vocale, possibilité de modifier la couleur du texte et du fond, etc. Côté Android, l'application qui est fournie par Google s'appelle Play Libre. Là aussi, on a des fonctionnalités pour modifier la taille de police et les polices de caractère, mais très très peu de fonctionnalités d'amélioration du contraste ou de modification des marches ou d'interlignes. Si on veut vraiment quelque chose de très très complet, on peut s'orienter vers une application comme Gorit, par exemple, qui est, à mon avis, une des plus complètes, puisqu'on peut modifier la couleur du texte, du fond, mais on peut modifier aussi la taille des marges, de l'interligne, les polices de caractère, y compris les couleurs des ce qu'on appelle les encres, donc les liens, etc., etc., etc.
Il s'agit d'une application gratuite, c'est payant, non? C'est
gratuite.
C'est encore mieux. Mais écoutez, vous êtes très bien, vous aussi, j'allais dire, parce que vous êtes gratuit, mais pas que, hein, parce que vous donnez également des informations très précieuses pour les aveugles et les malvoyants. Côté technologie, c'est normal, vous faites partie du CERTAM qu'on va retrouver après une pause musicale sur Vivre FM.
Vous écoutez La Vie des Associations, Benjamin Moreau.
Il nous reste quelques minutes à passer en compagnie du CERTAM, le Centre d'évaluation de recherche des technologies à destination des aveugles et des malvoyants. Fernando Pinto da Silva et Jean-Pierre Carpanini sont des nôtres pour justement répondre à un certain nombre de questions, puis peut-être pour mieux nous faire savoir encore ce qu'est le CERTAM.
Oui, à tout le moins rappeler un petit peu ce qu'on y fait et ce qu'on publie. En réalité, beaucoup des questions qu'on a traitées aujourd'hui et des questions qui nous sont posées sont des questions auxquelles on peut déjà trouver des réponses sur notre site internet www.certam-avh.com. On y publie, comme vous le savez, des fiches d'évaluation sur des produits précis, mais on y publie également des dossiers thématiques sur comment on peut lire lorsqu'on est non-malvoyant, comment utiliser le format EPUB, comment peut-on accéder à Internet lorsqu'on est non-malvoyant, et ainsi de suite. On a fait un certain nombre de dossiers. Certains disent que ce sont des dossiers de vulgarisation. Voilà.
Donc, bien que vous ne soyez pas vulgaire, je le précise
je le crois pas, mais
J'en suis convaincu.
Donc tout ça pour dire que, voilà, rappelons à nos auditeurs que pour certaines de leurs questions, ils trouveront sans doute déjà une réponse sur notre site Internet. Par ailleurs, on est également joignable par ce même site pour nous poser des questions. En revanche, et ça il faut peut-être le dire tout de suite, nous n'assurons pas le service après-vente des matériels qui ont pu être achetés, parce que malheureusement on reçoit des questions soit via ce formulaire, soit directement sur la boîte vocale dédiée donc aux questions que les gens peuvent aussi nous poser par téléphone, évidemment, où on nous demande, voilà, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça, j'arrive pas à faire ci, comment je peux faire ça. Malheureusement, c'est pas qu'on ne veut pas le faire, hein, mais
vous n'en auriez pas le temps, c'est pas votre rôle.
On ne peut pas le faire, en fait. Ouais. On n'a pas les moyens humains pour le faire. Et c'est vrai que du coup, bah, c'est une demande à laquelle aujourd'hui on ne peut pas répondre. Donc on réoriente souvent vers les entreprises où les gens ont acheté ce matériel, puisque ce sont à eux d'assurer le service après-vente des matériels qu'ils ont vendus, ça va de soi. Et sinon, on oriente vers d'autres services qui existent au sein de l'association Valentin Huy, puisque je vous rappelle que le CERTAM est un service de l'association Valentin Huy. Et on a notamment des clubs informatiques qui existent, qui permettent voilà, de s'approprier certains matériels, de prendre des cours sur certains matériels, par exemple.
Cela dit, quand vous avez conçu un fichier, enfin une fiche, à partir d'un appareil dont on a parlé notamment sur l'antenne, ça veut dire qu'en consultant cette fiche, on apprend peut-être mieux aussi également à se servir du dit appareil.
Certainement, en tout cas, beaucoup des internautes nous le disent. Mais c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer donc une boîte vocale par téléphone, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas aller sur Internet, et on pense également à eux qui ne sont pas à l'aise sur Internet. Et là-dessus, on est tout à fait prêt à leur répondre par téléphone si ces questions concernent bien les publications qu'on a faites. Évidemment, si c'est sur des sujets qu'on ne maîtrise pas, on rappellera la personne pour dire que malheureusement, on n'a pas fait d'évaluation sur ce produit. En revanche, si ça a fait l'objet d'une évaluation, on rappelle cette personne pour lui en dire plus.
On arrive en période de Noël, là, il y a un cadeau tendance en ce moment, justement, pour une personne aveugle ou une malvoyante. Il y a un appareil, il y a un truc qu'il ne faut pas manquer.
Côté nouvelles technologies,
oui.
Il y a beaucoup d'applications dont on entend parler. Beaucoup de gens parlent du KNFB Reader, par exemple, comme le logiciel.
Oui, on en a beaucoup parlé ici,
voilà,
déjà.
Qu'on peut installer sous iOS. Après, on peut avoir différentes petites choses, mais il n'y a pas de vraie tendance, en tout cas qu'on ait constaté, qui se dégage sur le cadeau nouvelle technologie chez les déficients visuels. Enfin, je ne crois pas l'avoir perçu.
Non, si ce n'est effectivement, bien sûr, hein, les mêmes tendances, les mêmes envies que pour les personnes qui voient, c'est-à-dire les téléphones et tout ça. On en a un petit peu parlé, mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de revenir sur tout ça l'année prochaine.
Avec grand plaisir.
Parce que vous serez les nôtres.
Mais si vous voulez toujours de nous.
Mais on veut toujours de vous, absolument. Et d'ores et déjà, on vous souhaite de très belles vacances de fin d'année. Et un bon début d'année prochaine, mais on reparlera de tout ça ensemble, évidemment.
Et bonne fête à l'ensemble de nos auditeurs.
Merci à vous. Ça y est, c'est terminé pour ce qui est de cette vie des associations. Demain, prochaine vie des associations, évidemment. Et puis, n'oubliez pas que nous restons ensemble jusqu'à midi et que dans un instant, nous partons à la maison.